Fais-moi une petite place, une émission présentée par André Muller. Tu es à l'antenne, André, je t'envoie le générique tout de suite. Le rouge est allumé, on y va!
Fais-moi une place au fond de ta bulle. Et si je t'agace, si je suis trop nul, je deviendrai tout pâle, tout muet. Fais-moi une place au fond de ton cœur. Pour que je t'embrasse lorsque tu pleures.
Ah, j'aime beaucoup notre générique. Qu'est-ce qu'il est généreux, notre Julien Clerc, et surtout la bienveillance de notre Thomas. Bien le bonjour et bonne fin de matinée, chères grandes oreilles du 102.9. L'avant-dernière émission, avant les grandes vacances, j'ai fait une place aujourd'hui à des travailleuses. Non, pas Arlette Laguiller, on fait pas de politique dans notre émission, mais à des travailleuses infatigables, sans répit. Et sans elle, nous n'aurions plus le même goût de la vie, la même saveur sucrée de la vie. Ces travailleuses se font de plus en plus rares. Et pourquoi? Et pour quelles raisons? On va vous l'expliquer tout ça. Nous allons poser toutes ces questions à notre invité qui a un métier aux multiples facettes et toujours en contact avec Dame Nature. Vous avez deviné, nous allons parler du métier d'apiculteur et de Maya l'abeille. Bonjour invité surprise, vous pouvez vous présenter ?
Bonjour, je m'appelle Gérard Liquel. Je suis originaire d'une petite commune entre Saverne et Haguenau qui s'appelle Pfaffenhofen.
Ah, avec... la ville, combien de F ? Il y a combien de F dans Pfaffenhofen ?
Cinq.
Fenefstektu. Alors, écoute, je suis ravi de t'accueillir devant ce bouquet de micros. Hein. Le rouge est allumé, tout va bien. Écoute, on est très heureux. On va saluer notre ramasseur de bruit derrière sa vitre teintée. Salut Thomas, comment tu gazouilles ce matin avant les vacances ?
Ça gazouille bien, et vous ?
Oh, ben nous, on est très heureux. Là, écoute, alors on va parler du métier d'apiculteur. Il faut aimer la nature, dis-moi Gérard. Hein. Avant, il faut aimer cette nature et travailler dehors, à l'extérieur. Tu travailles autant que les travailleuses, que tes travailleuses ?
Je suis retraité. Donc, pour moi, c'est un loisir. Mais c'est un loisir qui est très prenant. Hein. Donc, c'est-à-dire, on sort, on s'occupe des abeilles, on les regarde tous les jours, on leur dit bonjour, on regarde si
on
ça...
On les aime, les abeilles ?
On les aime, on regarde au trou de vol, comme on dit. Hein.
Mais malgré qu'elles te piquent de temps en temps, tu les aimes quand même ?
Oh, ça arrive, les piqûres, on sent... C'est pas grave.
Tu les supportes, tu n'es pas allergique.
Facilement.
Tu n'es pas allergique, ouais. Et alors, dis-moi, est-ce que c'est un métier apiculteur ou alors on apprend ça sur le tard ?
On peut apprendre ça principalement dans les ruches-écoles, je pense, hein, qu'il faut passer par une formation. C'est quand même des animaux sauvages, ce sont des bêtes qu'on arrive à orienter, qu'on n'arrive pas à maîtriser.
Orienter, ça veut dire quoi ? Orienter vers un arbre, vers une fleur ?
Par exemple, et on peut leur faire bâtir les cadres en fonction de ce que nous, on veut. Et, mais si elles veulent bâtir en travers, les abeilles font ce qu'elles veulent.
Ah, donc elles sont libres de faire ce qu'elles veulent ?
Elles sont libres.
D'accord. Alors dis-moi, tu n'étais pas toujours apiculteur, tu avais un autre métier avant.
Oui, j'avais un métier, plusieurs métiers même. Hein. Je suis à ma 9e profession différente.
C'est pas vrai ? Ah ouais ? 9 professions, mais tu as fait quoi ?
J'ai démarré en tant que comptable, puis j'étais derrière une vitre, je calculais combien de temps qu'il fallait rester assis derrière cette vitre avant d'avoir la retraite.
Mais quelle tristesse !
Ah, ben c'est horrible. Et puis donc, j'ai essayé de changer, j'ai cherché partout, j'ai rien trouvé, il fallait être libéré des obligations militaires. Et donc, je me suis engagé. Donc, j'étais sous-marinier quelques années.
Hein. Dans les bateaux ?
Dans les bateaux,
dans les sous-marins ?
Marine nationale, oui.
Ah
plusieurs
ouais
années, ouais.
Mais t'es pas claustro, là, en dessous, non ?
Non, mais comme on pouvait pas ouvrir les fenêtres et écouter le chant des oiseaux, après, on est devenu bûcheron, on a fait déjà plein
ah ouais,
de métiers,
ouais, ouais,
hein, pour finalement atterrir en mairie de Saverne.
Chez Adrien Zeller ?
Chez Adrien qui m'avait cherché à l'époque.
Qui était un monsieur aussi qui aimait la nature.
Ah oui. Hein,
défenseur de la nature.
Hein. Un grand monsieur.
Ouais, c'est vrai que je l'ai bien connu aussi, ce monsieur, quand il était ministre et tout ça. Ouais. On l'avait vu à Paris avec les motards devant, le gyrophare et tout. J'ai bien connu ça.
Il était secrétaire d'État à l'époque.
Et alors, dis-moi, ta passion de la nature, elle vient d'où, cette passion de la nature et des abeilles ?
Mais c'est le fait de vivre déjà à la nature, en pleine nature, hein, hors de ville. On a la nature à côté. J'ai connu mon enfance, c'était l'époque de la guerre des boutons. Hein. J'ai connu ça avec les villages voisins. Puis on avait pas
t'as, fait, t'as bagarré avait comme rien. Ça avec ouais. des frondes et avec
bah
des
oui.
épées.
Bah oui, obligé.
Et vous gagnez ou tu perdais?
Oh, moitié-moitié.
Alors, parle-moi un petit peu de ce métier d'apiculteur. C'est quoi un apiculteur? Qu'est-ce qu'il fait? Il se lève tôt le matin. Raconte-moi une journée d'un apiculteur.
Un apiculteur, c'est plutôt un berger des abeilles.
Un berger ?
Un berger.
Oh, c'est joli ça.
C'est-à-dire qu'on laisse, on surveille notre troupeau. Le troupeau qui est une ruche. Plusieurs ruches, peut-être, plusieurs ruches. Hein. J'en ai plus de 40 chez moi à la maison. Donc,
wow. Et il y a combien d'abeilles par rucher ?
Par ruche, à la sortie de l'hiver, ce sont à 10 000 à peu près, 10, 15
000. 10 000, 10 000 fois 40 ? Waouh, c'est énorme.
L'été, on monte jusqu'à 80 000 abeilles par ruche. Hein.
80 000, c'est énorme.
C'est énorme.
Et t'arrives à gérer tout ça ?
Bien sûr, ce sont les abeilles qui se gèrent elles-mêmes.
Elles-mêmes, ouais. Ouais, mais alors tu parles à l'instant du berger, mais le berger fait des transhumances, tu transhumes aussi ?
Le berger transhume, bien sûr, on suit les récoltes, en sachant qu'une abeille ne fait que 3 km, grosso modo maximum.
Hein. Autour de sa ruche ?
Autour de sa ruche, et en faisant 3 km, elle a besoin d'énergie, d'essence pour aller à l'arbre où elle cherche quelque chose, elle prend quelque chose et elle consomme de l'énergie pour revenir. Donc on ramène les ruches le plus près des ressources mellifères.
Mais ça veut dire que le 3, pourquoi tu parles d'énergie, une abeille ? Comment, c'est pas le soleil qui les fait voler ?
Ben non, elle a besoin de muscles, elle a besoin de protéines, elle a besoin de ressources alimentaires. Quoi.
Et où elle les trouve alors ces protéines ?
Ben dans la nature, là où elle les trouve encore.
Ah d'accord, mais on en reparlera un peu tout à l'heure.
Oui.
Ouais. C'est un métier de toutes les saisons ou c'est un métier de 3 saisons seulement, l'apiculteur ?
Disons 3 saisons. La quatrième, on entretient le matériel.
Parce que l'hiver, tu hibernes comme tes abeilles ?
On hiberne, on prépare notre
toi
miel.
Toi aussi, tu dors tout l'hiver ?
On le met en pot.
Ah oui,
On prépare les sorties, les marchés de Noël. On essaie de vendre la récolte qui a été faite au courant de l'année.
Ah, attends, on va écouter une toute petite musiquette. On va demander à notre ami Thomas de nous mettre du Bourvil, parce que tu vas voir, c'est rigolo ce qu'il chante.
Les seins se gonflent et s'abandonnent à la caresse du printemps. Et dans la ruche tourbillonne, prêtes à prendre leur élan. Les abeilles se posant par cent et par mille sur les fleurs qui s'ouvrent à peine. Elles butinent leur pistil pour en extraire le pollen.
Le pollen, écoute, c'est vrai que c'est une belle musique. Hein.
Il est ouais.
Bourvil, j'aime beaucoup. Ouais. Alors dis-moi, une abeille exerce plusieurs fonctions. Hein. Je crois qu'elles sont nettoyeuses, architectes, ouais. manutentionnaires, ventileuses, gardiennes de la reine, nourricières. Et elles protègent son rucher.
Elle protège son rucher. Une abeille, c'est comme un essaim d'abeilles, c'est comme un village. Il y a l'architecte, le médecin, il y a tout le monde. Au début, au moment où l'abeille naît, elle devient nettoyeuse, donc elle nettoie l'alvéole où elle est sortie. Il y a des saletés, des morceaux de cire qui traînent. L'abeille nettoie tout ça. Après, elle devient nourricière. Donc, avec le nectar et le pollen qui est ramené, elle le transforme et elle nourrit les larves. Et à un moment donné, elle devient super nourricière, c'est-à-dire qu'elle produit de la gelée royale qui n'est destinée qu'à la reine. Et les larves, les 3 premiers jours, sont nourries à la gelée royale. Et après, ce sont les nourrices ordinaires qui font le travail. Puis, au bout du 12-13e jour, il y a des glandes cirières qui viennent, donc l'abeille architecte, c'est elle qui bâtit les rayons, qui les restaure.
Les alvéoles, tu veux dire les petites alvéoles ?
Tout à fait, les alvéoles.
Dans les casiers,
voilà.
Là ?
Nous, on leur met juste une feuille de cire et elle les étend en 3D, comme on dit, elle les étire.
Hein. Ah, c'est incroyable.
C'est incroyable. Ouais. Hein. Et puis, donc, entre-temps, l'abeille est ventileuse, donc c'est-à-dire que le nectar qui rentre est à 80% d'humidité. Il faut le rendre à moins de 18% d'humidité pour que ce
soit
du miel.
Mais elle le ventile comment, avec les ailes ?
Ah ben toute la nuit, ça ventile, on entend le bruit derrière, 11h minuit, c'est formidable.
Mais elles ne dorment jamais ?
Les abeilles, non, dorment jamais.
C'est pas possible, mais comment elles font ? Où elles trouvent toute cette énergie ? Dans le miel ?
Possible, possible, possible. Hein. Et donc, l'œuf met 3 semaines pour que l'abeille naisse, et l'abeille reste 3 semaines dans la ruche. Sa dernière mission, c'est gardienne devant la ruche, donc elle ne laisse rentrer que les abeilles qui ont l'odeur de la reine, et puis après, l'abeille devient butineuse.
C'est comme une sorte de carte d'identité, en fait, pour rentrer dans la...
Tout à fait, tout à fait.
On aurait beaucoup de choses à apprendre des abeilles, je pense. Qu'est-ce que t'en penses ?
Formidable.
Et alors, dis-moi, une abeille, elle vit combien de temps ?
Une abeille vit maximum 45 jours.
Seulement ?
La reine, nourrie exclusivement la gelée royale, vit jusqu'à 5 ans.
Ah d'accord. Alors comment s'organise toute cette vie dans la ruche ? Comment ça s'organise avec la reine ? La reine est respectée, c'est une vraie reine ?
C'est une vraie reine, elle a une couronne.
Comme une reine. Elle est plus grande que les abeilles ?
Elle est un peu plus grande, donc elle a l'abdomen allongé. Hein.
Ouais.
Et donc,
mais comment l'a choisi la reine ?
La reine, ce sont les abeilles qui la choisissent. Si les abeilles ne veulent plus leur reine actuelle, il suffit de donner pendant 9 jours de la gelée royale à n'importe quel œuf qui va se transformer en reine.
Ah bon ?
Et la nouvelle reine qui va naître est forcément plus forte que l'ancienne, donc l'ancienne part avec la moitié de la ruche, on appelle ça l'essaimage. C'est quelque chose qui se produit actuellement, c'est pour éviter de se faire tuer.
Ah d'accord, mais alors l'abeille ne sort pas tout le temps du rucher, s'il fait 0 degré, elle sort à quelle température ? Il faut avoir 15 degrés pour qu'elle sorte, quitter sa ruche ?
L'abeille sort à peu près vers 12, 13, 14 degrés grosso modo. Hein. Nous, quand on fait des cours à Picole, on en fait actuellement tous les dimanches chez moi, et donc on ouvre les ruches à partir de 14 degrés, donc c'est-à-dire mi-avril grosso modo. Hein. Donc on fait tous nos cours théoriques de janvier, certaines associations de Strasbourg commencent septembre déjà, et donc pour jusqu'à l'ouverture des ruches. Et puis on suit toute la saison apicole.
D'accord, alors parle-moi aussi un petit peu de où est-ce qu'elles vont les abeilles, sur quels arbres, sur des châtaigniers, des tilleuls, quelles sont les fleurs ou les plantes mellifères où elles vont. C'est surtout à la campagne qu'on les croise, les abeilles. Elles sont où les abeilles en général ?
Les abeilles sont partout.
En ville comme à la campagne ?
En ville comme à la campagne. L'avantage d'une ville, par exemple, comme Strasbourg, tous les ronds-points sont fleuris à partir de février jusqu'à Noël. Donc eux, ils ont une ressource alimentaire, ce qu'on n'a pas à la campagne. À la campagne, il manque le bol alimentaire, les abeilles.
Mais pourquoi ? Il y a des campagnes, il n'y a pas de fleurs, tu veux dire ?
Ah ben, c'est l'agriculture intensive qui a fait ça. Hein. Donc, si vous allez du côté de Herstein, par exemple, vous avez des côtés qui font 4 km de long sur 10 km de long où il n'y a que du maïs. Hein.
Le maïs, elles n'aiment pas ?
Si, elles aiment au cas où. Mais on demande à l'homme de manger 5 fruits et légumes par jour. On essaye de donner 5 pollens différents par jour aux abeilles. Et parfois, on ne le trouve plus.
C'est vrai qu'on a l'impression qu'à la campagne, les prairies, c'est trop vite coupé par les paysans. Quoi. Les tondeuses, il faudrait les supprimer, non ?
Autrefois, on laissait quand même fleurir les campagnes. Hein. Certaines régions qui sont destinées principalement à l'élevage, il y a beaucoup de fleurs. Mais chez nous, comme toutes les vaches laitières sont nourries au maïs, à tout ce qui est ensilé, et donc certaines prairies sont quand même fauchées 5-6 fois. Il n'y a plus aucune fleur qui monte en graine, qui va retomber pour germer l'année prochaine. Et c'est ça notre problème.
C'est quand même incroyable. Moi, j'ai eu la chance, je reviens de Slovénie, là, j'étais à la pêche à la mouche avec des amis, j'ai vu des prairies de notre enfance où il y a encore des lupins, des marguerites, des boutons d'or, là, des vraies fleurs, quoi. Et
l'état sauvage.
À l'état sauvage, chez nous ça n'existe plus ça. Mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Pourquoi ça revient pas ça ?
Ben, parce que l'agriculture est différente. Hein. On a changé niveau agriculture, l'agriculture est beaucoup plus intense, donc on fait de grandes parcelles à cause des tracteurs, de grandes machines, alors qu'en Slovénie c'est autre chose, tout est orienté vers l'apiculture là-bas. Hein.
Est-ce que l'apiculteur s'entend avec l'agriculteur ou vous êtes en guerre en permanence ?
Non, pas du tout, on s'entend. Hein. Donc on sait
comment peut-on s'entendre avec des gens qui abîment la nature ?
Ben, ils n'abîment pas la nature, ils en vivent. Hein. Ils en vivent, oui, ils font vivre les autres, les gens. Mais
on parlait du maïs à l'instant, l'Alsace c'est une mer de maïs, c'est horrible, franchement. Oui, pourquoi on voit que du maïs et du maïs et du maïs ?
Mais parce que la région, le sol s'y prête aussi.
Et à cause de l'argile, bien sûr. Mais est-ce qu'on a besoin de tout ce maïs ? Est-ce qu'on en a encore besoin de tout ça ?
Peut-être qu'il faut revenir à une agriculture plus raisonnée, je dirais. Hein.
Ben moi je suis d'accord avec toi, je préférerais voir des petites fleurs partout à la place du maïs, franchement.
Tout à fait. Maintenant, même dans les vignes, on fait beaucoup plus de raisins, de vignobles bio, tout ça. Autrefois, toute l'herbe entre les vignes était arrachée. Hein. Le Haut-Rhin, la Fédération du Haut-Rhin a fait une très bonne opération, a donné des semences mellifères aux viticulteurs pour qu'ils les plantent entre les rangées de vignes. Et actuellement, donc effectivement, les viticulteurs voient que s'ils laissent de nouveau pousser de l'herbe, que toute la structure du sous-sol, elle est beaucoup... Tout s'améliore.
C'est aussi pour faire venir les abeilles. Est-ce que les abeilles butinent le raisin? Est-ce qu'elles
non,
vont...
mais pas du tout.
Pourquoi? Parce que c'est plein de pesticides?
Non, pas forcément. Hein, mais si on arrive à planter du pissenlit...
Gérard, t'es sûr que si on arrive le vin, il n'y a pas de pesticides dans les grands crus?
Un petit peu.
Ouais, on va le dire comme ça. Ouais. On ne va pas faire du mal à nos amis viticulteurs et agriculteurs. C'est vrai que... Mais bon, c'est vrai qu'on peut dire que les abeilles, Gérard, sont quand même en danger. On peut le dire.
Les abeilles sont en danger.
De moins en moins de coccinelles. Tu vas du côté de Westhoffen, là-haut. Il y a plein d'arbres fruitiers. Ouais. Bah, ils en mettent. Je vois des fois des cosmonautes qui sont habillés en cosmonautes. Ce n'est pas des apiculteurs. Ouais. Ils sont sur leur tracteur et ils en mettent... Ouais. Tout ça pour que, pour que la cerise soit ronde, craquante, et sans petits boutons, sans rien, quoi. Donc les abeilles sont parties, elles ne sont plus là-bas, Westhoffen.
C'est pareil que pour les moustiques, tout ce qui est éradication. Hein. C'est pareil pour les oiseaux. Hein. Actuellement, je conseillerais presque même de nourrir les oiseaux actuellement. Si vous avez... On n'a plus de moustiques, on n'a plus d'insectes. Les oiseaux vont élever leurs petits avec quoi? Donc il faut retourner un petit peu vers la nature.
Oui, puis tu parlais des coccinelles, des hannetons. T'as vu des hannetons ces derniers temps?
Non, pas encore.
Moi, quand j'étais gamin, on les collectionnait, on les mettait dans des petites boîtes d'allumettes, et on faisait peur à l'institutrice, surtout à la fin des vacances, on faisait peur aux filles aussi avec ça, quoi.
Ils sortent au mois de mai, fin mai.
Oui, exactement. Voilà. Écoute, on va écouter un petit peu de musique pour reposer les oreilles, on va demander à Thomas de nous mettre du Nougaro, par exemple, comme tu aimes le jazz, ça va te plaire, ça.
Tout à fait.
Quand le jazz est là, la java s'en va. Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le gaz entre le jazz et la java. Chaque jour un peu plus, il y a le jazz qui s'installe. Alors la rage au cœur, la java fait la malle. Ses petites fesses en bataille sous sa jupe fendue. Elle écrase sa gauloise et s'en va dans la rue. Quand le jazz est là, la java s'en va. Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le gaz entre le jazz et la java. Quand j'écoute Béar un solo de batterie, v'là la java qui râle au nom de la patrie. Mais quand je crie bravo à l'accordéoniste, c'est le jazz qui m'engueule me traitant de raciste.
C'est beau, hein, Nougaro, tu aimes?
Formidable.
Tu aimes le jazz? Pourquoi tu aimes le jazz? Qu'est-ce qui te plaît dans le jazz?
C'est une musique que j'avais trouvée à un moment donné et chez moi, Pfaffenhoffen, on avait un petit Big Ben qui s'appelait le Berry's Band, la bande à Berry, qui se réunissait. Et donc, professionnellement, on avait un orchestre corporatiste français.
Ah oui, d'accord.
Je faisais partie de cet orchestre national même.
Et tu faisais quoi? Tu chantais?
Trombone.
Ah, tu joues? Ah oui, d'accord. Alors, dis-moi, tu joues des fois devant les ruchers du trombone? Tu leur fais de la musique à tes abeilles?
Ça fait peur, j'ai peur qu'il y a quand même des réactions qui arrivent. Hein. En sachant que les abeilles sont très sensibles aux vibrations. Donc, vous avez des gardiennes, à peu près 2-3 000 gardiennes par ruche. Dès qu'elles entendent quelque chose qui ne devrait pas, elles attaquent.
Ah,
ça,
oui,
c'est pas bon. Hein.
Et donc, elles picotent?
Elles picotent.
Tu m'as dit tout à l'heure, tu n'es pas allergique, hein, je crois, aux piqûres d'abeilles.
Non. Bon, la première de l'année fait toujours un peu mal. J'avais déjà les yeux entièrement fermés. Wow. Ça m'est déjà arrivé.
Ouais, hein. Ça brûle.
Et donc, mon record, c'est quand même 48 piqûres en une fois. Mon épouse m'a enlevé 48
dards. Une fois,
je me suis déchiré la tenue.
C'est
et le
vrai.
Temps de refermer toute la ruche, de partir en courant.
Alors, c'est marrant parce que j'ai un jour, je me suis fait piquer sur mon balcon aussi, il y a longtemps, par une abeille. J'avais appelé SOS médecin parce que j'étais un peu... J'avais des piques à la gorge et ça commençait à enfler. Tu sais ce qu'il a fait, le médecin? Il est venu, il a allumé une cigarette, il a mis la cigarette tout près de la plaie. Et en fait, enlever en fait le venin, quoi. Il l'a brûlé comme ça.
Il l'a brûlé.
Bon, après, j'avais un peu mal, j'étais un peu brûlé au quatrième degré, non, j'exagère.
Mais sinon, prends une pièce de 1, 2 ou de 5 centimes, actuellement, les pièces en cuivre qu'on met dessus une dizaine de minutes.
C'est d'accord.
Ça atténue.
Ça atténue un peu. Le persil aussi, peut-être, frotter du persil.
Persil aussi, le plantain.
Le plantain, ouais. Alors, on parlait à l'instant de musique. Est-ce que tu entends ce bourdonnement? Les abeilles font de la musique dans le rejoint.
Les abeilles font de la musique, Les abeilles chantent. Si les abeilles n'ont plus de reine, on ouvre la ruche, elle fait un bruit totalement différent qu'une ruche qui a une reine à l'intérieur.
C'est comme ça que tu sais que la reine est morte?
C'est comme ça qu'on sait que la reine est morte et qu'une ruche est orpheline.
Ah oui, d'accord. Mais parle-moi un petit peu aussi du miel. Est-ce que le miel, c'est quelque chose de vital, c'est important dans la vie des hommes de manger du miel?
Mais c'est-à-dire que le miel a quand même remplacé le sucre pendant des millénaires presque. Avant qu'on plante tout ce qui est sucre de canne et betterave, tout ça.
On fait du miel depuis quand? Des décennies, même les pharaons faisaient du miel?
Oui, il y a même un pharaon, je ne me rappelle plus son nom maintenant, qui est décédé d'une piqûre d'abeille. Et ça a été immortalisé sur un dessin, sur une fresque, dans une pyramide.
Ah oui. Ouais. Quel était le tout premier apiculteur dont tu te souviens? C'était.
Je crois que c'était Adam déjà.
Adam et Ève,
ils connaissaient déjà.
Donc c'est Ève qui l'a un peu piqué, je crois.
Aussi.
Alors, parle-moi on parlait à l'instant des ruchers qu'on a mis à un moment très à la mode sur les mairies des grandes villes et des villes moyennes. Est-ce que c'était une bonne idée, ça, de mettre du...
Mais c'est-à-dire, à un moment donné, on bétonnait toutes les villes, et puis à un moment donné, on veut de nouveau un peu de nature en ville. On ne voit plus d'abeilles, n'entendait plus petit à petit, donc il y a des ruches qui reviennent. Il en faut peut-être pas trop. Vous avez quand même Strasbourg, ou la commune, comme j'ai dit, a quand même des ronds-points qui sont déjà... à partir de février jusqu'en septembre, jusqu'à Noël presque, qui sont garnis de fleurs, alors que nous, à la campagne, on n'a pas ça. Je ne veux pas dire qu'il y a presque plus à manger en ville qu'à la campagne, mais enfin, à la ville, les abeilles ont leur raison d'être, je pense.
Mais en fait, ce miel des grandes villes, est-ce que ça sent pas les pots d'échappement, non?
Pas du tout.
Pas du tout.
Pas du tout. Tout le monde roule à l'essence sans plomb. Tout le monde roule à la voiture électrique. Il n'y a plus aucun problème. En sachant que, par exemple, un hectare de forêt, un hectare d'acacia, c'est 100 mètres sur 100, c'est un hectare produit à peu près entre 200 et 400 kilos de miel d'acacia. Un hectare de tilleul, le tilleul qu'ils ont en ville, ça peut produire jusqu'à 1,2 tonnes de miel. Donc maintenant, diviser ça en sachant qu'un apiculteur, il fait ses 10, il essaye de faire 5, 10, 15 kilos d'acacia, après il fait du châtaignier, il fait un peu de tilleul, il fait un peu...
Tu parles de kilogrammes, combien de kilos de miel donne un rucher, par exemple?
Mais tout dépend de l'année, tout dépend de l'année. Là, cette année, à l'instant, il y a l'acacia qui finit chez nous à la campagne, il a déjà fini il y a 15 jours à Strasbourg. Val-de-Villers, près du Mont-Saint-Odile, j'étais la semaine dernière, il est en pleine floraison. Problème, c'est qu'on avait du vent de nord-est, qui dessèche tout. Ça fait un bout de temps qu'on n'a pas eu de pluie.
Justement, parle-moi un petit peu de cette sécheresse. Est-ce que les abeilles manquent d'eau?
Les abeilles ne manquent pas d'eau, vu qu'on leur donne, et vu qu'ils vont, chaque apiculteur a un bassin, des seaux d'eau, des baignoires, des vieilles baignoires remplies d'eau devant chez lui, et on essaye de donner une eau meilleure, sinon elles vont chercher le chlore dans la piscine du voisin. Vous avez des problèmes de voisinage alors.
Ah oui, d'accord. Ouais, donc ça, c'est quand même pas très intéressant.
Non, donc chez nous à la campagne, il y a des ruisseaux partout, plus ou moins. En ville, il y a de l'eau. C'est pas l'eau. Nous, on a des abeilles mellifères, c'est-à-dire des abeilles qui récoltent du nectar. Et donc, pour qu'il y ait du nectar, il faut qu'il y ait une certaine humidité dans l'air et dans le sol. Et voilà, et donc si vous êtes en période de sécheresse, que les abeilles sortent à 4 heures au lever du soleil et qu'à 4h30, il fait déjà 25-26 degrés, tout est desséché, les récoltes sont nulles.
Bah, tu parles de récolte, quel est un peu le miel que tu affectionnes, que tu aimes plus qu'un autre? C'est lequel?
Moi, c'est le miel de châtaignier.
De châtaignier, pourquoi? Oui. Il a un goût plus prononcé?
Oui, c'est un goût très prononcé, c'est un miel, comment dire, un miel d'homme, c'est un miel costaud. Vous prenez votre châtaignier, vous le mettez en bouche, vous laissez fondre en bouche, vous l'avalez, vous expirez par le nez. Si ça vous gratte au fond de la gorge, c'est du châtaignier. Si ça ne gratte pas, c'est du miel de forêt.
Et donc tu parles de... Oui, c'est intéressant, tu parles du miel des garçons, mais les filles, qu'est-ce qu'elles aiment comme miel?
Oh, un miel doux, miel d'acacia par exemple, qui est un miel très doux, qui est également parfumé. Les dames aiment beaucoup miel de lavande. Par exemple.
Ah, ça c'est bon, mais nous on n'a pas beaucoup de lavande.
Non,
ici.
Il vient du sud de la France.
Du sud de la France. Ouais. Il est bon parfumé, il a un gros parfum de lavande.
Oui, ouais. il a un très bon parfum, mais chaque miel, il y a tellement de sortes de miel qui sont des.
Il y a combien de sortes de miel à ta connaissance?
Je sais. À l'infini? Je sais que quand je fais un stage, une journée dégustation chez moi, je vais dans un magasin à Strasbourg qui, l'année durant, a dans les 135 sortes de miel différents.
Ah oui.
Et donc, à chaque fois, je prends du miel. Voilà. Puis actuellement, les vacances, c'est quelque chose qui est très bon. On m'a amené du miel de Madagascar, du miel du Mexique, voilà.
Et est-ce que le miel est bon pour la santé? C'est bon.
Ah, le miel est très bon pour la santé.
Pourquoi? Parce qu'il y a du propolis dedans? Parce que...
Il y a beaucoup, surtout le miel de sapin qui est chez nous. Hein. S'il y a beaucoup d'oligo-éléments, tout ça, qui sont dedans, hein, qui a une très bonne odeur de nature, de d'humus, de feuilles, qui est formidable. Mais malheureusement, on fait une récolte une fois tous les 4 ans. 3-4 ans à peu près, avec le sapin.
Hein. Avec le sapin, oui. Ouais. Ça, c'est quand même quelque chose de très rare. Après, le miel a aussi un prix. Hein. Ça coûte aussi de l'argent. Un miel de forêt, comme tu dis, est beaucoup plus cher qu'un miel de châtaignier.
En principe, il y a deux sortes de miel. Du miel de fleurs, qui est un miel clair, et du miel de forêt. Dans le miel de fleurs, si vous vous débrouillez bien, vous arrivez à faire du miel d'acacia. Au Canada, ils font du miel de trèfle blanc. Il y en a qui font du miel de pissenlit. Il y en a qui font du miel de tournesol. C'est du miel de fleurs. Mais c'est à chaque fois une certaine sorte. Hein. Et donc, vous avez le miel toute fleur. En forêt, c'est pareil. Il y a le miel de forêt, qui est un miel foncé, qui nous vient principalement à partir de juin à septembre, grosso modo. Hein. Et là, vous avez du miel de ronce. La tempête Lothar à l'époque qui avait abattu beaucoup d'arbres.
Ouais.
Le soleil a enfin touché le sol. Il y a des ronciers immenses qui ont poussé sauvagement de nouveau.
Des murs, tu parles des murs ouais.
des ronces, comme on dit. Hein,
ouais,
et,
ouais.
Et les apiculteurs des environs, ils ont fait des récoltes faramineuses de miel de ronces. Hein. Et donc, si vous arrivez à faire du tilleul, du châtaignier, du sapin. Voilà.
Donc le malheur des uns fait le bonheur des autres.
Tout à fait.
Et en fait, quand les arbres sont morts, comme tu disais à cette période-là, bah la végétation a repris le dessus. Quoi. A
repris le dessus, ouais.
Et parle-moi un petit peu de... comment tu l'accommodes, toi, ton miel? Tu le mets sur le tartine le matin quand tu prends ton café? Ou tu le mets dans le thé le matin? Comment tu consommes ton miel?
Le miel, premièrement, je commence par une cuillère, je mets du miel dedans, une cuillère à soupe, hein, que je saupoudre de cannelle, qui est très bon pour vous faire perdre du poids.
Ah tiens, mais il faut que je prenne ça, moi, ouais, pour ça, perdre du poids cet été, ouais.
Voilà, et après, vous avez du pain, donc vous mettez du miel dessus, hein, tout dépend...
Pas de beurre, tu mets pas de beurre.
Non, tout dépend le pain que vous avez.
Bah, du bon pain, hein, on n'achète pas du pain industriel.
Oui,
hein.
Mais le miel le plus liquide, c'est le miel d'acacia,
ouais.
Et donc, si vous trempez votre cuillère... Si vous trempez votre cuillère dans le pot de miel que vous avez vers la tartine et que vous retournez, le miel d'acacia est tellement liquide que vous avez une traînée sur la table jusqu'à la tartine, le temps de revenir une deuxième, et pendant ce temps, le miel vous coule à travers le pain. Et
voilà. Faut lâcher les doigts.
Bah, tout
écoute,
à fait.
En tout cas, on a passé un doux moment avec toi, monsieur l'apiculteur. C'était très sympa que tu viennes de Pfaffenhofen avec tous ces FFFF et que tu viennes jusqu'ici à nous. Merci beaucoup de ta visite et on a appris beaucoup de choses. Hein, c'est vrai, Thomas, on a appris plein de trucs avec lui ce matin. Hein.
Merci
beaucoup. La semaine prochaine, on aura un littéraire qui nous parlera des livres pour partir en vacances. On emmènera des... Merci beaucoup, Gérard, d'être venu jusqu'à chez nous. À bientôt, porte-toi bien.
À bientôt.
Et n'oublie pas de manger du miel.
Tout à fait, tous les jours.
Voilà, c'est fini. On a tant ressassé les mêmes théories. On a tellement tiré chacun de nos...